Et oui, Alain Vignal, bonsoir pour la dernière fois sur les ondes de Radio Maria.
Oui, bonsoir, merci. C'est un grand plaisir encore de vous retrouver. Et on va aujourd'hui terminer la Révolution française et faire un petit peu un bilan à la fois de la Révolution et puis du parcours qu'on a fait pendant un an, pendant 2 ans même. Voilà. On a vu la dernière fois que, malgré les apparences, la sainteté ne s'est pas interrompue pendant la Révolution. C'est quand même un paradoxe assez incroyable. D'une part, parce que, on l'a dit, les persécutions elles-mêmes ont pu susciter des vertus de force, une ferveur renouvelée chez des futurs saints du XIXe siècle, le Saint Curé d'Ars, Émilie de Rodin, Saint Marcellin Champagnat, etc. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a des figures de sainteté qui ont traversé la Révolution et qui souvent, malheureusement, ben, sont morts martyrs. Alors, c'est le moment aujourd'hui d'en voir quelques-uns. Dans le désordre, je commencerai peut-être par le bienheureux Noël Pinault, qui a été béatifié le jour de la première fête du Christ roi, en 1926, et qui est fêté le 21 février. Alors pourquoi? Parce qu'il a été guillotiné avec ses habits de prêtre, avec ses habits sacerdotaux, en lançant la prière que ceux qui vont encore à la messe en latin connaissent, Introibo ad altare Dei, hein, je vais monter à l'autel de Dieu. Et donc il a dit ça au moment où il montait, non pas sur les marches de l'autel, mais sur les marches de la guillotine. C'est quand même assez incroyable. Alors, il faut rappeler que c'est un prêtre de l'ouest de la France. Il est né à Angers en 1747. C'est le dernier des enfants du Tisserand du coin. Il a 16 enfants, le Tisserand. Et il est ordonné prêtre en 1771. Il reste d'abord 10 ans vicaire. Il est aumônier des malades. Et en décembre 1788, il se trouve curé d'une petite paroisse qui s'appelle Louroux-Béconnet, où il veut rester le plus pauvre possible. Il refuse le serment civique qui est imposé aux prêtres en 1790, à l'inverse d'ailleurs de son vicaire. Et une semaine après le serment de celui-ci, il pourfend en chaire la décision du vicaire. Le maire d'ailleurs doit interrompre le serment, qui impressionne beaucoup dans la région, et le vicaire lui-même d'ailleurs rétracte son serment quelques jours ou quelques semaines plus tard. Il se trouve assez rapidement dénoncé, arrêté par un détachement de plusieurs dizaines d'hommes. Il leur offre d'ailleurs à manger et à boire, et il est attaché sur son cheval vers la prison d'Angers. Il est réconforté par son évêque qui vient le visiter et auquel il fait part en fait de son bonheur de souffrir la persécution pour la foi et il demande de prier pour lui. Au cours de son procès, il déconcerte complètement les juges par ses réponses. Alors, ça rappelle un petit peu Sainte Jeanne d'Arc ou Saint Polycarpe dans les premiers temps du christianisme. Et en fait, on est encore au début de la Révolution, donc les sentences ne sont pas encore très sévères. Il est condamné à l'exil. Donc, il a la vie sauve. Il décide en fait de se cacher et pendant 3 ans, il reste actif dans l'ouest de la France. Il retrouve à un moment donné même sa paroisse en juin 93 à l'occasion de la victoire des Vendéens. Mais après les défaites vendéennes de Nantes et de Savenay, eh bien, la répression s'abat sur la Vendée. Le père Pinault est reconnu par un ancien paroissien qui le dénonce, qui le reconnaît. Il est découvert le 8 février 1794 dans un grand coffre à vêtements dans lequel il était en train de se cacher avec ses habits sacerdotaux. Alors là, il vit sa passion, on lui crache à la figure, on le frappe, on profane les ossicles consacrés, et lui se contente de répondre: Mon ami, je ne t'ai pourtant fait que du bien. Le voici emmené à Angers, promené dans toute la ville, il reste 10 jours seul au cachot, il est jugé par le tribunal de la commission militaire, où il fait preuve de nouveau d'une grande sagesse, mais cette fois-ci, nous sommes au cœur de la terreur, en février 1994, et donc, évidemment, les mesures sont beaucoup plus fortes. Il est donc condamné à mort et guillotiné le vendredi 21 février 1994 à 15 h. Il décide de réciter le psaume 42, « Mon Dieu qui avait donné votre vie pour moi, rajoute-t-il, avec plaisir, je donne la mienne pour vous. » Et Donc, c'est le premier des martyrs d'Angers qui seront béatifiés au XXe siècle. Notamment, il y a 15 guillotinés, 20, 84 fusillés, sur à peu près 800 noms de victimes que nous connaissons, mais qui n'ont pas toutes été béatifiées, parce qu'on ne connaît pas forcément la vie en détail de chacun. Alors, évidemment, on voit que ce martyr ne vient pas de nulle part. C'est vraiment le couronnement d'une vie qui a été une vie sacerdotale, qui a été livrée sans compromission avec le monde, en imitation de Jésus, et qui a connu donc son apogée par ce martyr en habits sacerdotaux. Du côté des femmes, on peut parler des carmélites de Compiègne, dans l'Oise, en Picardie. Le Carmel de Compiègne a été le 53e fondé en France en 1641, dédié à Notre-Dame de l'Annonciation, à proximité d'un château royal de la région, et qui a longtemps été protégé par les reines de France. Il faut savoir qu'un siècle avant le drame de la Révolution, le songe d'une carmélite, sœur Élisabeth Baptiste, qui a vu toutes les religieuses dans la gloire de Dieu, en portant un manteau blanc, une palme à la main, a beaucoup fait parler dans le couvent. Qu'est-ce que ça veut dire que ce songe? Est-ce que ça veut dire qu'un jour il y aura des martyrs dans le couvent? Ben, effectivement, ça a été le cas sous la Révolution. Alors au début de la Révolution, on a 21 religieuses carmélites, dont une novice dont on reparlera, trois converses, deux tourières. Alors les tourières, ce sont des sœurs qui sont responsables des relations du couvent avec l'extérieur, c'est-à-dire notamment qui s'occupe de l'approvisionnement du couvent. La prieure a 37 ans et l'âge moyen des religieuses est de 45 ans. Alors, je passe sur les différentes spoliations qui ont eu lieu dès 89-90. La novice, sœur Constance, se voit interdire de prononcer ses vœux par la loi. Vous vous rappelez peut-être qu'on avait vu que les vœux religieux ont été suspendus en octobre 89 et interdit complètement en février 1790. Les religieuses sont expulsées et sont dispersées. Juste avant, la supérieure mère Thérèse de Saint-Augustin a fait prononcer à chacune un acte de consécration et d'offrande que toutes devront répéter tous les jours. Le but, en fait, c'est, malgré la dispersion qui va avoir lieu, c'est de rester unies par le serment et par l'oraison, par l'office qui sera récité tous les jours. Et donc, les historiens nous racontent qu'en fait, il y aura quatre groupes séparés de carmélites. Deux, d'ailleurs, vont mourir, trois quitteront le groupe. Et donc, le 22 juin 1794, il ne reste plus que 16 carmélites qui sont arrêtées en quelques heures là où elles se trouvent. Alors, on a le récit d'une d'elles qui n'a pas fait partie évidemment de celles qui ont été arrêtées. On a également les minutes du procès, évidemment, et nous savons que ces sœurs sont accusées de fanatisme, de sédition, parce qu'on a retrouvé chez elles des lettres qui critiquaient la Révolution française. On a trouvé aussi une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Alors on pourrait dire, bon, ben, c'est simplement une pratique religieuse. Oui, sauf que le Sacré-Cœur de Jésus, c'est aussi l'emblème des Vendéens. Nous sommes à la fin des guerres de Vendée. Et évidemment, toute dévotion au Sacré-Cœur est suspecte de contre-révolution. Et donc, eh bien, finalement, les 16 sont condamnées à mort, ce qui produit chez elles une grande sérénité, voire une certaine joie. Parce que paradoxalement, en prison, eh bien, elles se retrouvent pour la première fois ensemble. Elles peuvent chanter l'office, y compris la nuit, à 2 h du matin, les témoins ont raconté qu'elle se réveillait pour pouvoir dire l'office. Et le lendemain de la fête du Mont Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet, eh bien, elles subissent un procès qui est mené par le célèbre accusateur Fouquier-Tinville, très connu au moment de la Terreur, qui les convainc de fanatisme, de contre-révolution. Et donc, je répète, les voici devant la guillotine le 17 juillet 1794. Alors, on a le témoignage justement de sœur Marie de l'Incarnation, qui ne faisait pas partie du groupe des condamnés, et qui nous disent que les religieuses chantaient sur la charrette qui les amenait à l'échafaud, le Miserere, le Salve Regina ensuite, au moment où la foule était complètement silencieuse. Ce qui était assez rare. Il faut imaginer que, au moment de la Grande Terreur, nous sommes en juillet 1994, donc dans la dernière partie de cette terreur, juin-juillet 1994, au moment du pouvoir absolu de Robespierre. Et donc, eh bien, ces exécutions étaient pour le grand public un moment un peu de réjouissance, où les plus révolutionnaires en profitaient pour crier, pour vociférer. Et là, certainement impressionné par le courage de ces femmes, de ces religieuses, eh bien, la foule est silencieuse. La prieure, Mère Thérèse de Saint-Augustin, on a déjà parlé d'elle, demande la grâce de passer en dernier pour pouvoir être là, pour encourager toutes ces religieuses. Parce qu'évidemment, au moment où on va arriver à la guillotine, il y a un risque de flancher. On peut bien naturellement se mettre à leur place. Et puis, eh bien, il n'en est rien. La première qui va passer, c'est la plus jeune, la fameuse novice, Sœur Constance de Jésus, qui, après un instant d'hésitation, se met à entonner avec joie le Laudate Dominum, repris par les religieuses suivantes, dans un grand silence de la foule. Et donc, chacune va, tout en restant digne jusqu'au bout, être guillotinée ce 17 juillet 1794. Elles sont béatifiées le 27 mai 1906 par le pape Saint-Pie-X, et on sait qu'elles inspirent ensuite de nombreuses œuvres littéraires, les hagiographies, le dialogue des Carmélites de Bernanos, un film, une pièce d'opéra de Francis Poulenc, et donc elles ont gagné une grande célébrité. Elles sont fêtées le 17 juillet, le jour de leur mort, et on peut retenir d'elles une grande force. Nous sommes encore dans le temps de Pentecôte, et donc je pense que ça nous montre combien l'Esprit Saint peut donner la force à celles qui le prient, à celles et ceux qui le prient et qui restent unis à notre Seigneur. Des femmes aussi, faut pas les oublier, les bienheureuses martyrs d'Orange. Alors on change de région, nous sommes dans le sud de la France cette fois-ci. Orange, c'est le Vaucluse en Provence. Et la commission d'Orange a fait guillotiner, autour de 1694, 332 personnes, dont 32 religieuses, qui venaient de milieux divers, et la grande différence avec la Carmélite de Compiègne dont on vient de parler, d'ordres différents. Il y avait notamment une bénédictine, deux cisterciennes, 13 sacramentines, 7 ursulines. Parce que, justement, la dispersion des ordres religieux en février 90 fait que sont arrêtés des gens religieux, religieuses, qui ne sont pas forcément des mêmes ordres. Elles ont, elles aussi, été accusées d'avoir voulu détruire la République par le fanatisme, et elles sont victimes de la persécution. Alors, les archives nous montrent un petit peu de leur vie en prison. Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit sur les Carmélites de Compiègne. Elles se lèvent à 5 heures, elles méditent les prières de la messe, elles prient les litanies des saints, elles méditent aussi le chemin de croix, et puis elles récitent la prière des agonisants, le Te Deum, lorsque une partie du groupe est montée sur la guillotine, parce que les exécutions ont lieu en plusieurs jours. Par exemple, Sœur Marie-Rose, née en 1741, était bénédictine à Caderousse et arrêtée le 10 mai 1794. Elle a refusé un bouillon gras que sa tante était venue lui apporter en prison un vendredi, le dernier vendredi avant sa mort. Elle a préféré observer le jeûne. Elle est condamnée le 5 juillet 1794 avec 13 autres personnes, dont un chanoine Lusignan. Et là aussi, on voit une fidélité sans faille aux vœux de chacun, de chacune, une joie certaine au moment du sacrifice suprême de la vie. Et d'ailleurs, Sœur Marie-Rose a écrit un couplet pour remercier les bourreaux de la faire aller si vite au ciel de manière aussi efficace. On voit quand même la ferveur de cette foi qui n'avait pas peur du martyre. On peut citer également les bienheureux martyrs de l'île Madame. Alors c'est peut-être moins connu, L'île Madame, sauf peut-être les gens qui sont de cette région, nous sommes dans Charente-Maritime. La Charente-Maritime, c'est une petite île au large de La Rochelle et qui est en fait le lieu de mort et de sépulture de 250 prêtres réfractaires en 1794. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous souvenez peut-être que la Révolution a d'abord pris des mesures importantes contre les réfractaires et ensuite contre les jureurs. Et parmi ces mesures, il y avait la déportation. Et donc, on a prévu de déporter les prêtres réfractaires en Guyane et en Afrique, qui étaient déjà donc à l'époque colonies françaises. Le problème, c'est qu'on est en pleine guerre contre l'Angleterre et le commandant décide, après un moment de discernement, que le voyage est trop dangereux parce que le bateau pourrait se faire arraisonner par les corsaires anglais. Et donc, eh bien, comme il va jusqu'au bout de sa mission, son but va être de faire disparaître les prêtres sur l'île Madame, donc à peine au large de La Rochelle, bien loin de la Guyane et de l'Afrique, qui étaient les destinations premières de ces prêtres. Je cite le commandant, ce qui est important, c'est que les prêtres doivent disparaître. Peu importe finalement que ce soit à quelques kilomètres de la côte ou à l'outre-mer dans les colonies. Alors il y a évidemment énormément de figures parmi ces 250 prêtres, j'en citerai que quelques-uns. Jean-Baptiste Souzy, un prêtre de La Rochelle, donc un voisin, à la carrière tranquille, d'abord était curé, pardon, vicaire, ensuite curé de petit village, chanoine de la cathédrale, syndic du chapitre, donc il a terminé par un poste un peu plus important autour de l'évêque diocésain. Évidemment, il fait partie de ceux qui ont refusé le serment et il entre rapidement en clandestinité, où il a une grande influence. Il va d'ailleurs convertir des protestants de La Rochelle. Vous savez que c'est une région où il y a encore aujourd'hui une communauté protestante assez importante. Et donc, eh bien, il ne s'occupe pas seulement de convertir les jureurs ou les fidèles un peu égarés, mais il s'adresse également aux protestants. Il finit par être arrêté, déporté donc sur un des bateaux qui va jusqu'à l'île Madame. Il fait d'ailleurs preuve d'une grande fermeté d'âme et c'est lui qui décide sur le bateau d'organiser un peu la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, évidemment, c'est impossible de célébrer l'office ou de dire la messe, mais il va essayer d'encourager chacun par une petite prière à plusieurs moments de la journée. Et finalement, il meurt d'épuisement le 27 août 1794, étant béatifié ensuite en 1795 par Jean-Paul II. Un deuxième exemple, le père Jean-Baptiste Guillaume, dit frère Huldaric, qui fait partie des frères des écoles chrétiennes. Alors, lui est de l'Est de la France, il a enseigné pendant 8 ans à Nancy, il refuse le serment civique également, il reste instituteur. Mais ses vertus irritent ses ennemis. On lui reproche notamment d'élever les enfants dans la vertu chrétienne et il est déporté en janvier 1794. Il va survivre plusieurs mois jusqu'à mourir du typhus, lui aussi le 27 août 1794. Il faut noter qu'il y avait deux gros navires qui étaient chargés de ces prêtres réfractaires, le Washington et les deux associés. Et on comptait au maximum 400 prêtres par bateau, dans l'entrepont, avec 3 étages de couchettes. On imagine un petit peu les conditions extrêmement difficiles de promiscuité, où il était très difficile de respirer, beaucoup sont à fond de cale comme des animaux, sans paille. Et en fait, on ne peut même pas s'allonger ou se lever sans se faire mal ou sans faire mal aux voisins. C'est quand même assez incroyable. À ajouter évidemment les puces, les poux, les insectes qui vont dévorer les prêtres, qui vont parfois pondre sous la peau la nuit. C'est suffisant, je pense, pour vous brosser un peu l'idée de la vie quotidienne de ces prêtres très très difficile qui a été vécue pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Alors, il est important de noter que tous ne sont pas morts de la même manière. Par exemple, certains prêtres ont été étouffés par, je cite, une fumigation républicaine. En fait, on va descendre un baril de goudron Et donc, on va asperger de goudron certains prêtres un peu au hasard pour les faire mourir. Certains sont fusillés, certains meurent de maladies, de manque d'hygiène, etc., etc. Et en fait, ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'on est arrivé à l'île Madame. Alors, c'est une toute petite île, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la région, au large de Rochefort exactement, qui fait 800 fois 400 mètres de dimension. C'est-à-dire que c'est une île quasiment inhabitable. Et là, on va quasiment mourir de faim. Le père Jean-Baptiste Souzy arrive à donner la communion à un confrère mourant en disant: Le maître est là, il t'appelle. Je cite encore: Nous sommes les plus malheureux des hommes, mais les plus heureux des chrétiens. Et ce qui est incroyable, c'est que, on l'a vu aussi par l'exposé des lois la dernière fois, eh bien, le sort s'est abattu également parmi les assermentés. Et donc, parmi les prêtres qui sont morts, eh bien, plusieurs avaient, au moins au départ, prêté serment civique à la constitution civile du clergé. Le pape Pie VI, d'ailleurs, dira qu'ils ont bien mérité de la sainte religion. Et il parlait notamment des morts de l'île Madame, mais pas seulement, en disant: Rien de plus noble n'a existé que la conduite du clergé français. L'Église gallicane n'a jamais brillé d'un éclat aussi radieux. Et donc, il faut savoir que chaque année, depuis 1910, existe un pèlerinage à l'île Madame où chacun dépose un galet sur une très très grande croix, donc composée de galets, où est le lieu de sépulture des 254 prêtres. Il y a d'autres figures qu'on va voir. Le père Pierre-René Rogue, 1758-1796. C'est un prêtre breton, né dans le diocèse de Vannes, dans le Morbihan, et lui aussi refuse de prêter le serment civique. Il exerce un moment son ministère de la clandestinité. Il échappe à la terreur. Par contre, il subit les conséquences de l'échec du débarquement des émigrés à Quiberon en 1795. On en parle un petit peu dans le film Vaincre ou mourir sur charrette qui est paru cette année. Il se fait arrêter du coup la veille de Noël 1795, alors qu'il était en train de porter les derniers sacrements à un mourant. Il est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire local, évidemment. Et à noter quelque chose d'assez incroyable, c'est que le tribunal est en train de siéger précisément dans l'église où il a été ordonné et où il a prêché, ce qui l'a beaucoup touché. Et il est évidemment condamné à mort, guillotiné le lendemain, le 3 mars 1796. Ces derniers mots, je les cite: Sur mes persécuteurs, sollicitez sans cesse la fin de leurs erreurs. Et puisqu'ils sont nos frères, chérissons-les toujours, n'opposons à leur guerre que douceur et amour. C'est ça qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'on parle beaucoup de violence dans cette émission, la violence révolutionnaire, mais les chrétiens ne répondent pas par une contre-violence, par une escalade dans la violence, mais uniquement par le martyre et par l'amour du Christ. Alors il y a aussi des gens qui se défendent évidemment, les guerres de Vendée, mais les prêtres en tout cas répondent uniquement par l'amour du Christ. Et le père Rogue sera béatifié par Pie XI le 10 mai 1934. Alors, on pourrait abondamment prolonger cette liste. Je pourrais rester jusqu'à 20h ou 22h, mais je pense que les techniciens de Radio Maria ne seraient pas très contents. En tout cas, j'aimerais signaler que dans tous les diocèses de France, ou presque, on conserve la mémoire de tels prêtres martyrs, de tels endroits secrets où les prêtres célébraient la messe, de tels laïcs dévoués qui cachaient des membres du clergé, de tels groupes massacrés. Alors, je ne peux pas quand même passer sous silence le village de Luc-sur-Boulogne, en Vendée, où 500 personnes ont trouvé la mort, dont plus de 120 enfants, massacrés les 28 février et 1er mars 1794. Reynald Secher en a abondamment parlé. Et d'ailleurs, il faut savoir que le 9 juin, c'est-à-dire dans quelques jours, chaque année depuis 2008, on célèbre la Journée internationale des archives. Et donc, c'est l'occasion de rendre hommage à toutes ces victimes, bien sûr, et à tous ceux qui, à travers les archives départementales, les archives diocésaines, il y en a normalement dans chaque diocèse de France, eh bien, tous ceux qui continuent à garder la mémoire des documents, des objets, des personnages qui sont en lien avec ces martyrs. En quelques mots, j'aimerais, si vous permettez, parler un peu de mon diocèse, celui de Fréjus-Toulon, dans le département du Var, que j'ai étudié pendant ma thèse de doctorat. On se souvient notamment de deux bienheureux qui ont été massacrés, alors non pas à Toulon, mais à la prison des Carmes à Paris, et qui donc ont été béatifiés, François-Joseph Pey et Jules Pazuri de Thorame, et qui sont représentés sur un tableau dans une chapelle latérale de la cathédrale de Toulon, Notre-Dame de la Cède, si vous êtes venu à Toulon. Il y a aussi différentes persécutions, par exemple l'abbé Martre, le curé de Lavalette, une petite ville à côté de Toulon, a été massacré un dimanche soir après avoir dit les vêpres par une bande de sans-culottes qui cherchait en fait quelqu'un à tuer et qui venait de Toulon. L'abbé Jonquier, ancien curé de Bandol, un jureur pourtant, qui a été guillotiné en 1794 après la reprise de Toulon. Il y a également énormément de témoignages d'héroïsme. On parle beaucoup de l'abbé Turle dans le diocèse, qui était entre Fréjus et Brignoles, c'était dans le centre du Var, et qui pendant des années a survécu à la Révolution en étant déguisé en berger et en allant d'une ferme à l'autre pour baptiser, pour marier, pour célébrer la messe, pour aller bénir un mourant, pour donner les derniers sacrements, et qui a pris évidemment beaucoup, beaucoup de risques chaque fois qu'il se déplaçait. On parle aussi de l'abbé Barème, dont une archive nous dit qu'il est resté 5 jours caché dans un tas de fumier. Vous imaginez un peu. Et puis, je termine par l'abbé Paul de la Selle. Alors, parce qu'il y a une histoire assez incroyable, le curé Paul à La Selle, c'est une petite commune à côté de Brignoles, dans l'arrière-pays varois, a d'abord juré le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, et puis, au bout de quelque temps, il a rétracté, et il se rendait compte qu'il ne pouvait plus rester en sécurité dans sa paroisse, et donc il a fait un dernier serment à ses paroissiens en disant, eh bien, je suis obligé de partir, mais je vous laisse avec le bon Dieu. On imagine un petit peu le choc des paroissiens qui se sont retrouvés sans prêtre pendant longtemps. Et puis, eh bien, pendant des décennies, cette histoire était un peu oubliée, jusque dans les années 1860, où, lorsqu'on a refait l'église, on a restauré le tabernacle, et on se rend compte, personne ne le savait, qu'il y avait un double fond dans le tabernacle, et dans ce double fond, un vieux linge, tout jauni, et dans ce linge replié, une hostie. Qu'est-ce que c'était cette hostie? Et donc on demande à tous les villageois, aux anciens curés, aux anciens vicaires, non, non, on n'était pas au courant qu'il y avait un double fond, qu'il y avait une hostie, etc. Et donc certains disent, mais oui, je pense que quand le curé Paul nous a dit qu'il nous laissait avec le bon Dieu, c'est qu'il avait dû laisser une hostie consacrée dans le double fond du tabernacle pour qu'elle ne soit pas profanée par les révolutionnaires. Et en fait, l'hostie, par évidemment miracle, ne s'était pas décomposée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'évêque a fait analyser cette hostie et a permis une vénération de cette hostie qui, pendant des dizaines d'années, est restée intacte. Et en fait, dans les années 1940, un jeune vicaire, le jeudi saint, lorsqu'il a consommé toutes les hosties, eh bien, par mégarde, a consommer également cette hostie miraculeuse, donc vous ne pouvez plus la voir aujourd'hui à la selle. Pour terminer, j'aimerais dire que quand même la persécution a toujours une fin. Et en 1801, le miracle historique, si je puis dire, c'est le concordat entre Bonaparte et Pie VII. Alors, miracle historique, calcul politique en même temps, les deux ne sont pas contradictoires. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament, le roi des Perses, Cyrus le Grand, qui est cité dans le livre d'Esdras. Il met fin à l'exil du peuple hébreu à Babylone, alors non pas parce qu'il est très favorable aux Juifs, mais pour se faire un allié politique. Et donc le livre d'Esdras se réjouit de cette fin de persécution. Et bien c'est à peu près la même chose qui se produit en France. Devenu premier consul, Napoléon Bonaparte, qui est catholique de tradition, hein, extrêmement culturel, plus du tout pratiquant, mais qui en même temps est un pragmatique intelligent, il a dit que s'il gouvernait le peuple juif, il aurait rétabli le temple de Jérusalem. Bon. Eh bien, il comprend que la France ne peut pas être complètement pacifiée si on n'accorde pas la paix aux catholiques. D'où des négociations, d'abord secrètes, ensuite officielles, avec le nouveau pape, Pie VII, qui aboutissent à un accord public le 15 juillet 1801, le fameux Concordat. Il est d'ailleurs célébré par un écrivain très connu, Chateaubriand, dans son ouvrage « Le génie du christianisme », paru en avril 1802, juste au moment de l'application du texte, où il veut montrer que la civilisation française et européenne n'est rien sans le christianisme. Ce serait bien que nos gouvernants aujourd'hui relisent ce livre, qui est adapté évidemment à l'époque d'aujourd'hui, mais qui est très très intéressant. Les mesures du concordat sont assez simples. Premièrement, liberté complète de culte pour les catholiques, mais aussi pour les protestants et les juifs. Réouverture de tous les lieux de culte. Deuxièmement, la religion catholique est proclamée religion de la grande majorité des Français et celle du premier consul. Troisièmement, d'un point de vue financier, les frais seront couverts par le budget des cultes, dépendant du ministère des cultes, en conséquence de la nationalisation des biens du clergé qui a été effectuée en 1789. C'est-à-dire que les prêtres, les pasteurs seront, et un peu plus tard les rabbins, seront payés par l'État. Et puis, dernier volet, le pape Pie VII appelle tous les évêques à démissionner de leur poste, y compris les réfractaires, pour renouveler complètement l'épiscopat. Il faut savoir que, d'ailleurs, ce ne sera pas accepté par la petite Église, on pourrait dire des réfractaires intégristes, entre guillemets, des intransigeants qui ont mal accepté cette demande du pape. Et au total, le catholicisme se reconstruit peu à peu. Il faudra des décennies pour réparer les dommages matériels, les dommages spirituels, surtout de la Révolution. Et pourtant, le XIXe siècle sera un grand siècle de missionnaires, à la fois à l'intérieur, le Saint-Curé d'Ars, et à l'extérieur, l'évangélisation des colonies, qu'il ne faut d'ailleurs pas forcément confondre avec la colonisation. Évidemment, les deux phénomènes sont souvent parallèles, mais pas toujours. En Asie du Sud-Est notamment, l'évangélisation se fait en dehors du cadre purement colonial. Et qui c'est qui va mener cette reconquête catholique du XIXe siècle? Ben, notamment, c'est la jeune génération qui a grandi pendant la Révolution française et dont la foi, dont la ferveur a été renouvelée par les persécutions. C'est, comme je l'ai dit, Jean-Marie Vianney, Émilie Droda, Marcelin Champagnat et plein d'autres. Hein. Et donc, cette persécution a créé un peu une nouvelle génération de chrétiens fervents qui ont su re-christianiser le XIXe siècle. Certains historiens ont parfois un peu comparé avec l'épisode de 2013. 2013, vous vous souvenez, les 10 ans ont été commémorés par la société française, c'est le mariage homosexuel qui a été adopté. À l'époque, il y a un certain nombre de catholiques pour des raisons n'ayant rien à voir avec l'homophobie, mais dans la défense de la famille qui ont refusé cela. Et donc, ça a créé une génération de gens qui, au-delà de la défense de la famille et de cette thématique-là, eh bien, on participait à tenter de redynamiser le catholicisme français. Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure ce parcours de 2 ans d'émission ensemble. Vous voyez, de Louis XIV à la Révolution française, en un peu plus d'un siècle, la France a connu des mutations énormes. On est passé d'une époque de chrétienté à une remise en cause totale de la société par le poids d'une idéologie qui s'est diffusée progressivement dans cette nation, fondée par une conception abstraite de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme est, avec tout ce qu'elle a évidemment, le pape Jean-Paul II a parlé, d'éminemment respectable concernant les droits de la personne humaine. Eh bien, elle parle d'un homme qui est abstrait, qui n'a ni famille, ni âge, ni pays, ni sexe, et qui surtout n'est pas soumis au péché originel, contrairement à ce que nous dit l'anthropologie chrétienne. Cette idéologie a transformé profondément les mentalités, la pratique, en commençant évidemment par les élites cultivées, jusqu'à aboutir à un énorme phénomène révolutionnaire en 1789-99, avec tout ce qu'il a pu comporter d'idées généreuses et puis de pratiques dictatoriales et terribles envers tous les opposants. Et à travers cette étude, je crois qu'on a bien vu comment l'histoire de l'Église est une alternance de haut et de bas, de flux et de reflux. Parce que si l'Église est sainte, elle est composée de pécheurs, donc autant il faut assumer la totalité de l'histoire de l'Église, autant évidemment ça ne veut pas dire que tout ce que les chrétiens, y compris les responsables d'ailleurs, hein, ont pu faire est à canoniser avec tout ce que vous voyez de critiques derrière, évidemment. Mais malgré tout, l'Église a subsisté. L'Église continue aujourd'hui de se développer malgré les circonstances, malgré les scandales internes qui ont toujours existé, malgré les remises en cause, malgré l'indifférence, l'hostilité de certains. Ce qui nous montre bien, à mon avis, qu'elle est d'origine divine. Notre Seigneur nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, effectivement. Quand Napoléon menaçait le cardinal Consalvi de détruire l'Église, lorsqu'il était en désaccord avec le pape, le cardinal Consalvi disait que les clercs eux-mêmes ont essayé pendant 2000 ans de détruire l'Église et qu'ils n'ont pas encore réussi. Alors, derrière la boutade, on voit effectivement que l'Église est toujours là.
Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de l'Église. Vous étiez avec Alain Vignal. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.